de l'année 2020 chez Apple. Un nouvel iMac, pas moins de 5 nouveaux iPhones, dont un successeur du SE, mais aussi des versions 5G. Quid des lunettes de réalité augmentée que la rumeur annonce? La pomme va-t-elle accélérer au registre de l'innovation et des sorties en 2020? Débat.
Le Mac.
Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Deuxième émission enregistrée ici à Sydney, à deux pas de l'Opéra et du pont de Sydney pour une spéciale qu'attendre de 2020. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible sur notre site internet www.onrefaitlemac.com, mais également sur notre app iOS pour iPhone, iPad et Apple TV. Vous retrouvez On refait le Mac sur YouTube, Dailymotion, podcast et une version audio également sur podcast, Spotify, Deezer, mais également TuneIn, avec comme chroniqueur cette semaine pour faire le point sur ce qu'on attend d'Apple en 2020. En duplex depuis Paris, monsieur Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane.
Bonjour Olivier, bonjour Didier, bonjour à tous. Je suis ravi qu'on puisse partager et balayer toutes les rumeurs qui sont très nombreuses cette année sur un nombre peut-être plus important que d'habitude de produits que sortirait Apple, parce que la concurrence est de plus en plus grande. Donc si Apple commence un peu à sortir les griffes et à sortir plein de produits, je serais ravi qu'on en discute là pendant cette émission-là.
Oui, en effet, Stéphane, il y a une année qui s'annonce riche, plein de nouveautés. Et pour la commenter avec nous, du côté de Chamonix, monsieur Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier.
Et salut Olivier, il fait toujours aussi froid, tu vois. Je traîne toujours ma petite crève encore.
Oui, il faut soigner entre les deux réveillons, monsieur Didier.
Et oui, mais bon, on va parler de sujets assez intéressants. Les rumeurs, les gens adorent ça et nous aussi.
Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur Twitter cette semaine. La question était: qu'attendre de 2020 chez Apple? Vous étiez, j'en avais une lunette de soleil, 38,8% a souhaité un bundle Apple Music, TV+ et iCloud, 21,2% a souhaité un nouvel iMac, 19,8% a souhaité des lunettes de réalité augmentée et enfin 14,2% a souhaité un iPhone pliable. Alors vous êtes une majorité à souhaiter un bundle des services d'Apple. C'est vrai que si on les associe entre iCloud, Apple TV+, Apple Music, les prix s'envolent. Apple Music+, 9,90€ si vous avez l'offre simple et 14,99€ si vous avez l'offre famille. iCloud Drive, pour 5Go, il faut compter environ 2,99€ pour 200Go. Et si vous voulez 2Tera, c'est 9,99€. Donc Apple TV+, c'est 4,99€. Si vous rajoutez en plus Apple Arcade, c'est 4,99€. Donc bref, à la fin du mois, même si vous prenez le pack famille, qui est assez pratique, ça vous fait un total autour des 30€ par mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre audience? Est-ce que vous aussi, vous souhaitez, messieurs, un pack et une offre groupée du côté de chez Apple pour ses services?
Je vais répondre par rapport aux résultats du sondage. Je trouve que les fans d'ORLM sont raisonnables parce qu'ils ne veulent pas un nouvel iMac. Un iPhone pliable, ça paraît complètement illusoire. Des lunettes de AR, ce ne sera pas pour tout de suite. Ils ont voté pour ce qui est plus raisonnable et ce qui est plus souhaitable. On a vu le prix de TV+ qui était plutôt raisonnable, celui d'Arcade était également raisonnable, celui d'iCloud n'est pas celui qui est le plus déconnant, pareil pour musique, sauf qu'on utilise tous ces services de façon un peu désordonnée avec même d'autres prestataires. Là, on serait, grâce à ce système-là, on mettrait nos œufs dans le même panier, certes, mais ça serait vraiment le service absolu. Et grâce à ça, Apple pourrait faire ce qu'ils attendent depuis longtemps, faire cette bascule et rajouter ce service en quantité, avec un chiffre d'affaires conséquent dessus. Sauf que bien sûr, avec l'abus de position dominante, ils vont pas pouvoir le faire. Ne serait-ce qu'associer au moins deux services avec iCloud, ce serait génial.
Au-delà, Didier, on sait qu'Apple est dans l'œil du viseur de la Commission européenne pour abus de position dominante suite à une plainte de Spotify. La question, on peut savoir si également Apple a la possibilité de lancer un pack de services comme celui-là. En Europe, en tout cas.
Oui, oui, tu as tout à fait raison. Ça semble assez compromis. Mais de façon plus générale, Apple va avoir ce genre de problème de toute façon, hein, en étant jugé parti sur un certain nombre de choses, hein, effectivement, avec l'App Store, avec la musique. Et plus Apple va vouloir devenir une société de service, plus elle aura ces problématiques-là. Moi, ce que je trouve assez amusant dans ce sondage, finalement, c'est que ça révèle aussi Apple en ce moment. C'est-à-dire qu'on a du mal à rêver de potentiels produits qui nous feraient rêver. Et Stéphane avait assez raison tout à l'heure. C'est vrai qu'on est forcé d'être raisonnable quelque part, alors qu'on aimerait une voiture autonome, on aimerait peut-être des lunettes connectées et tout. Mais on sent que c'est quand même pas pour tout de suite. Donc voilà, bah écoute, ouais, rêvons de services, de bundle de services en attendant, quoi.
Les lunettes connectées, les lunettes de réalité augmentée, on va en parler dans un instant. En attendant, vous êtes très nombreux, 27,8% à souhaiter un nouvel iMac. On en parle dans un prochain chapitre. Va-t-on espérer un nouvel iMac avec un nouveau design en 2020 ? Le nouvel iMac, on en parlait la semaine dernière, c'est la machine icône qui a sauvé Apple de la faillite en 1997. Elle n'a pas évolué depuis des années chez Apple. La présentation du nouveau Mac Pro introduit un nouveau design, une nouvelle signature de marque. On le voit notamment avec le nouvel écran très design avec de l'aluminium partout. Est-ce que vous pensez que c'est des pistes, messieurs? On va peut-être commencer avec Didier pour le design d'un futur iMac. Et le 2020 serait enfin l'année de l'iMac.
Bah écoute Olivier, moi ça fait plusieurs semaines que j'ai ce magnifique écran Pro Display XDR en face de moi et je me dis qu'un iMac qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau avec un écran voilà, d'une trentaine de pouces avec ce petit pied là qui s'articule, alors peut-être pas avec exactement tous les atouts de cet écran mais en reprenant les bonnes idées, ça pourrait être assez intéressant. Après c'est vrai que ça fait un petit moment hein, on a fait un certain nombre d'émissions dédiées à l'iMac, on rêvait qu'Apple change le design, il commence à dater de 2012, donc voilà, moi je désespère un petit peu, effectivement, l'écran bord à bord, tu l'as dit, Face ID, un peu de réparabilité, voilà, même simplement un clavier un petit peu nouveau, alors soit avec une touch bar, soit au moins avec Touch ID, mais oui, en plus c'est un petit peu la machine phare, mais faut pas oublier aussi que ces machines ont perdu largement ces dernières années au profit des portables, hein. La plupart des gens aujourd'hui achètent des portables et leur greffent des écrans, alors pourquoi pas aussi un nouvel écran, tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, peut-être en faisant un Mac mini avec un écran Apple, et puis tu choisis, soit tu veux les deux en même temps, soit l'un ou l'autre, et puis tu pourrais accoler ton MacBook Pro si tu choisis que l'écran. Moi, je verrais bien plutôt quelque chose comme ça aujourd'hui.
En tout cas, on sait que le design de l'iMac a assez vieilli, hein, il est assez sage, tu parlais de 2012, mais il remonte même en fait depuis 2005, puisque le concept est là, avec les composants cachés derrière l'écran depuis l'iMac G5. On sait en tout cas une chose est sûre, Stéphane, c'est que le design de l'iMac, même s'il est moins populaire, mais il semble encore pas mal, et son design avec ses larges bandes, larges bordures autour de l'écran, n'est plus du tout au goût du jour, au jour où l'iPhone que j'ai ici n'a plus du tout de bordure. Donc on peut penser qu'Apple nécessite une petite refonte du design.
Oui, Olivier. En fait, j'étais en train de repenser à un endroit qu'on connaît bien, qui était un des étages de l'école 42. On voyait tous ces ordinateurs qui étaient alignés et ça faisait un spectacle magnifique. Et il se trouve que aussi dans mes équipes, ils ont tous des iMac pour développer. Et c'est des machines qui tiennent plutôt bien. Il n'y a pas vraiment trop de problèmes d'évolution et tout. Et tu sais ce qu'est la principale demande des développeurs ? C'est pas au niveau de la mémoire, de la puissance, c'est avoir un deuxième écran pour pouvoir mieux coder. Et en fait, j'étais en train de me demander si peut-être, ça serait, parce que c'est une grosse population, les développeurs, qui n'arriveraient peut-être pas à créer, qui créeraient un nouvel iMac, mais avec deux écrans, ou en tout cas, quelque chose qui est souhaité par tous les développeurs du monde pour pouvoir mieux et coder plus rapidement, en fait. Et j'étais en train de repenser à l'écran de Didier, j'étais en train de me dire, d'ailleurs, pourquoi pas, ça serait vraiment génial d'avoir cet écran-là magnifique, bord à bord, avec une qualité et une définition extraordinaire, mais en double, avec un simple clavier. Et je dis, ben finalement, ben c'est ce que vient de dire Didier, c'est un Mac mini et on rajoute ce que l'on veut. Donc peut-être, en fait, que l'iMac, moi, je vous avais peut-être me trouver un peu provocateur, mais est-ce qu'il a encore sa place dans la gamme d'ordinateurs d'Apple, tout simplement ?
On a encore toujours besoin de machines de bureau, hein, mais pour combien de temps ? C'est la question qu'on peut se poser. Si on avait fait, si on faisait une liste de souhaits que vous souhaitiez pour le prochain iMac, déjà on pourrait souhaiter qu'Apple change un petit peu sa politique en matière de composants. D'abord, des composants un peu plus rapides. Arrêtez les disques durs. Arrêtez Fusion RAM, mettre du SSD à tous les étages. Car Apple continue à commercialiser des iMac avec des disques 2 pouces et demi à 5400 tours par minute. C'est totalement aberrant.
Oui, totalement. Il faudra du SSD partout. On n'est pas obligé d'avoir des SSD de compétition. D'ailleurs, ils pourraient nous mettre des SSD plus lents, mais tout aussi efficaces. Ils pourraient aussi nous mettre la possibilité de changer la RAM. Voilà. Alors, je sais qu'on peut le faire sur la version 27 pouces, mais toujours pas sur la version 21 pouces. Toujours pas sur l'iMac Pro non plus. Tu vois, c'est quand même assez hallucinant aujourd'hui. L'identification Face ID, pourquoi ça arrive toujours pas sur des machines comme ça, un petit peu grand public, ce serait assez cool. Et puis toute la partie graphique. Alors c'est vrai que voilà, si on est développeur, on s'en fiche un petit peu. Mais moi, je connais des gens qui font de la programmation avec Unity. Tout un tas de gens en fait qui finalement veulent un peu de puissance graphique, ce qui est quand même le nerf de la guerre ces dernières années. Donc voilà, il y a les GPU externes, mais je trouve que c'est qu'une demi-solution. Et oui, on veut de la modularité, mais ça n'a pas été la philosophie de l'iMac, donc voilà, à moins de casser vraiment le concept, j'ai beaucoup de mal à y croire quand même.
Alors la modularité, on a vu que Microsoft a fait créé un peu l'événement en lançant ses nouveaux Microsoft Surface il y a quelques semaines du côté de Redmond. L'un de ses arguments phares, c'est qu'on pouvait changer la plupart de ses composants. À l'heure où on veut une industrie un peu plus écolo, qu'on sait qu'Apple se veut fer de lance en matière de recyclage, est-ce qu'elle n'a pas le choix que de proposer l'accès aux composants tout simplement pour garantir une plus longue durée de vie à ses produits? C'est possible techniquement. On se souvient du premier iMac G5 où on pouvait accéder à tous ses composants. Moi, je dirais, Stéphane, qu'Apple n'a pas le choix que d'aller vers ce créneau-là et arrêter de souder les composants ou les coller à la glue, quoi.
Sincèrement, je vois mal Apple changer d'attitude, parce que si on repense à pour quelles raisons ils ont fait les premiers ordinateurs qu'on appelait unibody, hein, si je ne dois me tromper le terme, c'était ça. Et ben, en fait, c'était pour une question de finesse et de design plutôt que de pour des raisons mercantiles qui pouvaient nous empêcher de changer de pièce donc et de rendre chaque ordinateur évolutif. Moi, je sais juste une chose, c'est que le design, et on l'espère toujours, sera toujours, même si on a pu le dire dans l'émission précédente de rétrospective, pouvait éventuellement être un élément moins important par rapport à avant. Apple restera quand même la boîte où le design est quand même au centre quand même de leur stratégie, et ils ne vont pas s'amuser à changer ou en tout cas venir en arrière pour qu'on puisse faire des ordinateurs ayant une modularité certaine au détriment du design. Pour moi, ça me paraît improbable, voire même totalement impossible.
Il n'empêche, Stéphane, on rentre dans une nouvelle ère du design avec le départ de Johnny Ive, Didier. Est-ce que c'est justement, ce ne serait pas la matérialisation d'un nouveau départ, d'une nouvelle ère chez Apple? On sait que Stéphane disait que ce n'était pas une volonté mercantile de souder les composants. C'est aussi une philosophie de design d'Apple et de Johnny Ive qui ne souhaite pas que les gens puissent accéder aux composants parce que c'est une source de panne. Monsieur X pourrait les en parler pendant des heures. Mais ça devient une demande, une réalité du marché, et Apple est de plus en plus montré du doigt sur la non-réparabilité de ses produits, Didier.
Oui, totalement. Et en fait, ça se matérialise aujourd'hui par l'extrême durée de vie en fait de ces machines. On a des iMac aujourd'hui même de 2009-2010 qui sont tout à fait, enfin, qui restent à peu près utilisables. Mais maintenant, on a envie de changer. Mais par exemple, l'écran fonctionne toujours. Et tu te dis, tiens, je peux rien en faire de cet écran parce que les modèles récents, tu peux même pas les utiliser comme écran externe. Tu vois, ils peuvent même pas avoir de deuxième vie. Et effectivement, enfin, moi, je me retrouve avec des bécanes comme ça où je sais pas quoi en faire. Alors, tu peux toujours les donner, etc. Mais des fois, tu te dis, il manquerait pas grand-chose finalement pour les mettre à jour. Et l'exemple d'ailleurs assez rigolo, c'est chez Tesla, où ils ont vendu des voitures, bon, quand même d'un certain prix, hein, mais voilà, c'était un modèle de 2016. Tu vas pouvoir payer pour avoir du nouveau hardware et avoir les derniers GPS et dernières techno de conduite autonome, puisque le reste de la voiture fonctionne bien finalement. Ils le font avec les batteries aussi. Tu peux changer ta batterie en cours de vie. Il y a des gens qui ont des Tesla de 2016, de 2012 même, qui sont encore en très très bon état parce que voilà, ils ont profité de ces upgrades. Donc voilà, sur des machines comme ça, ça ne me paraîtrait pas totalement délirant, si tu veux.
On passe à la rumeur qui a le plus fait buzzer en 2019 pour 2020. C'est bien sûr l'arrivée de lunettes de réalité augmentée. Des lunettes de réalité augmentée chez Apple, c'est vraiment la rumeur qui a le plus buzzé tout au long de l'année 2019. Va-t-elle arriver en 2020? Rappel des faits, c'est encore l'analyste inévitable Michouko qui a sorti cette affaire, hein, qui a annoncé que les lunettes d'Apple pourraient entrer en production dès le quatrième trimestre 2019, c'est-à-dire maintenant, avec une disponibilité pour le second trimestre 2020, donc dans les mois qui viennent. Bien sûr, ces lunettes fonctionneraient uniquement en réalité augmentée et avec l'iPhone. La rumeur était très forte en début d'année dernière, puis elle est repassée sous les écrans radar, et puis elle est revenue au cœur de l'été, quelques semaines seulement avant la keynote de l'iPhone en septembre, à l'initiative de macOS Rumors, qui a déniché dans iOS 13 de nouvelles fonctionnalités AR liées à la réalité augmentée logicielle, et même a déniché une petite icône d'un appareil, regardez, dédié à cette technologie. Ils ont même déniché, je dirais, une application mobile qui s'appelle Start Tester, qui permet d'activer ce mode d'affichage sur des lunettes. On va voir si ce sera le cas. Alors, votre avis, messieurs, est-ce que vous pensez qu'Apple va y aller? Est-ce que c'est ça, the next big thing du côté de chez Apple? On a consacré une longue émission cette année autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. C'est plutôt des lunettes de réalité augmentée qui se dessinent du côté d'Apple, Didier.
Oui, moi je vois assez bien ça à moyen terme. De toute façon, tous ceux qui ont testé un peu ces systèmes, que ce soit dans la voiture, effectivement, avec l'affichage tête haute, ou avec les Google Glass, qu'on fait un demi-flop, on va dire, à l'époque. Et effectivement, il y a énormément de choses qui pourraient interagir avec ton champ de vision. Alors, il y a toute la question des interactions, comment tu manipules ces lunettes. Il y a la question de l'autonomie, il y a la question de la dépendance aussi à ton smartphone, il y a la question de l'objet aussi au-dessus de ta tête. Et ça, c'est effectivement... je trouve que ça change beaucoup le paradigme dans lequel on est aujourd'hui. Mais quand tu regardes les gens, ils sont tous le nez sur leur smartphone. Est-ce que finalement, ils ne devraient pas avoir le nez en l'air et avoir finalement des produits qui t'assistent un peu plus dans le monde dans lequel tu vis, plutôt que d'avoir toujours ce nez sur l'écran? Ça pourrait être pas mal. Mais est-ce que la technologie est là? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Quand tu vois déjà ces casques VR, là, c'est encore très très gros. On a encore beaucoup de mal à miniaturiser ça. Il faut aussi beaucoup d'autonomie pour que ça dure toute la journée. Et il faut que les gens acceptent de mettre ça sur la tête, ce qui est, à mon avis, pour moi, le plus gros défi. Alors moi, j'avais vu aussi des brevets autour de lentilles, qui me paraissaient déjà un petit peu plus intéressants, puisqu'il y a moins cette contrainte d'avoir des lunettes sur le nez. Mais en tout cas, Tim Cook y croit beaucoup. Il en a parlé régulièrement d'ailleurs dans ses interviews. Pour lui, la réalité augmentée, c'est l'avenir. Reste à savoir donc la forme avec laquelle il métamorphosera ça sur notre nez.
Tu as raison, Didier. Stéphane, on l'a vu avec Microsoft. Aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. On a vu que Microsoft a lancé les HoloLens, en déjà la version 2. Donc l'idée, c'est d'avoir des lunettes et un écran qui ne vous isole pas de la réalité. Donc c'est de la réalité augmentée. Et l'enjeu, c'est de trouver un form factor, de trouver une solution qui soit légère, facile à porter, qui ne soit pas agressive, qui a expliqué en tout cas l'échec retentissant des Google Glasses en son temps du côté de chez Google, Stéphane.
C'est un sujet qui doit être et qui va être un des sujets les plus importants dans les 3, 4, 5 prochaines années. Alors, en effet, les Google, ça a été un échec un peu retentissant, c'est que les premières lunettes n'étaient pas vraiment des lunettes, parce que quand on était myope, on ne pouvait pas mettre des verres. Donc c'était une sorte de monture avec des gestes qui n'étaient pas tout à fait naturels, on devait loucher pour pouvoir voir des choses, et surtout, les données étaient tout ce que vous voyez avec les caméras était envoyé à Mountain View. Donc, dans certaines villes où il y avait beaucoup de Google Glass, comme à San Francisco, on voyait dans les restaurants, il était interdit de rentrer si on avait soit les chiens, soit si on était porteur de Google Glass. Donc déjà d'office, peut-être ils l'ont lancé trop tôt. Par contre, il y a eu une énorme utilité au niveau médical, où donc il y avait des gens qui étaient des chirurgiens qui étaient en train d'opérer à Sydney. Et ben il y avait un autre chirurgien, un confrère qui était aux États-Unis et qui dictait les gestes pour le chirurgien. Et donc, ça avait une très grande utilité en point de vue professionnel et médical. D'autres ont essayé de faire des lunettes pas augmentées, mais qui pouvaient être un peu rigolotes, comme les spectacles de Snapchat. Il y a eu deux versions. C'était plutôt un four, parce que ce n'était pas très intéressant. Les masques de réalité augmentée, eux, par contre, ont eu un relatif succès, mais il manque beaucoup d'applications. J'encourage, ça m'étonnerait que vous ayez des places parce que c'est ultra complet, mais si vous allez à l'exposition sur Léonard de Vinci, il y a un voyage auprès de la Joconde, où elle est devant nous, sur nos genoux presque, où là on voit vraiment l'effet de la réalité augmentée. Mais j'imagine tous les moyens qu'ils font faire pour faire une application comme celle-ci, donc on en est encore très loin. Si Apple se met, et j'ai lu pas mal, comme l'a dit Didier, d'interviews de Tim Cook, parce qu'il n'est pas avare d'infos à ce sujet, moi je pense que dans tout ce que j'ai pu, si je peux résumer tout ce qu'a dit Tim Cook, il trouve la technologie très intéressante. Et c'est quelque chose qu'il faut, où Apple immanquablement ira. Mais simplement, il dit jusqu'à présent qu'il n'y a pas la technologie, elle n'existe pas pour créer donc, des lunettes intelligentes, des smart glasses, dans la qualité, aux critères de qualité requis pour Apple. Parce que j'en suis certain, si Apple sort des lunettes, ça sera les plus belles du marché, parce qu'il n'y en a aucune qui a réussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tâtonner, on va trouver des choses, et à un moment, bah, ça va être lancé. Mais le plus grand défi, ça ne va pas être la création de l'objet, ça va être la création d'applications et de services. C'est tout. Et ça, ce sera encore très compliqué.
Ce qui explique certainement qu'Apple ait d'abord dégainé un kit de réalité augmentée, AirKit, voilà, pour l'iPhone, pour laisser les développeurs s'essayer à cette technologie et créer un écosystème avant que le hardware soit là.
C'est exactement ça. C'est vraiment, juste te donne un exemple tout bête. Tu es agent immobilier, tu dois faire des visites toute la journée. Au lieu de te déplacer, tu envoies les fichiers et les gens, ils ont leurs lunettes. Ben, au moins, tu vois, tu fais les visites. Le gars, il peut faire 40 visites en même pas une heure. Il y a des appartements qui lui plaisent. OK, très bien. Et ben, il donne le dossier et il va visiter après ceux qui lui plaisent vraiment et la transaction est accélérée. Et ben, le jour où on arrivera à faire un truc qui est basique et simple comme ça,
ouais, bon, ce voilà, qui vraiment dis, nous laisse penser qu'Apple prépare quelque chose, c'est la liste vraiment impressionnante d'acquisitions qu'a réalisé Apple ces dernières années. Je vous fais la liste. On commence en 2013 par PrimeSense, hein, c'est la start-up qui est israélienne, qui est à l'origine de Kinect, qui équipait la Xbox en son temps. 360 millions de dollars déjà à l'époque. 2015, donc ça c'était en 2013. En 2015, Apple a jeté son dévolu sur Metallo, hein, spécialisé dans la réalité augmentée, ou encore FaceShift, spécialisé dans le motion capture. En 2016, elle a racheté Flyby Media, qui est une start-up qui a précédemment travaillé avec Google pour son fameux projet de réalité déjà virtuelle, de réalité augmentée, Tango. En 2016, elle a racheté Emotient. Et fin novembre 2017, Apple a racheté une start-up créatrice d'un casque de réalité augmentée, son nom, VR Vana. Donc là, on est vraiment dans le dur. Décembre 2017, c'est pas fini, Apple a racheté une autre startup qui s'appelle Spelltral. En août 2018, c'est pas fini, Apple rachète Aconia, qui est spécialisé dans l'affichage par hologramme. On est dans Star Wars. Et pour conclure, la personne qui serait en charge de ce projet, ce serait Dan Riccio, hein, qui est le vice-président en charge du matériel chez Apple. Donc beaucoup d'appétence, beaucoup de recherche. Ce n'est pas parce qu'il y a des protos qu'Apple va sortir un produit, mais il y a quand même baleine sous gravillon. Revenons donc à notre sondage où, après les casques de réalité augmentée, arrivait un iPhone pliable à près de 14,2%. L'année 2020 sera-t-elle l'année de l'iPhone ? On annonce pas mal d'iPhone cette année, pas moins de 5 nouveaux modèles. 5 iPhones en 2020. Commençons par un iPhone équipé d'un écran pliable. Croyez-vous à cette rumeur ? On en a parlé la semaine dernière. C'était la grande tendance tech, la grande mode tech de l'année 2019. Il est difficile pour Apple de produire en grande quantité et d'avoir accès à cette technologie aujourd'hui, Didier. Hein.
Oui, non, j'y crois pas du tout. Et non seulement. Voilà, elle n'y aura peut-être pas accès assez vite, mais pas en tout cas dans les quantités qu'il lui faudrait. Et puis, pas avec le niveau. Enfin, Stéphane l'a très bien dit tout à l'heure, on est en dessous du prototype. Donc, Apple ne va absolument pas sortir quelque chose comme ça aussi vite. Et moi, je pense qu'Apple doit imaginer aussi ce qui est derrière ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un problème de hardware. C'est vraiment d'avoir tout l'écosystème qui va bien derrière et voir quel type d'application aussi on va mettre là-dessus.
Alors, plus qu'un écran pliable, vous êtes nombreux à réclamer un iPhone plutôt SE, un iPhone d'entrée de gamme. C'est aussi une rumeur récurrente ces derniers temps. Regardez ce tweet de Ricardo sur Twitter. Rien de tout cela, un iPhone 5,7 pouces, full screen avec une prise jack. à pas plus de 500 €. Je sais, web, c'est impossible. Oui, le retour de la prix jack, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, un successeur de l'iPhone SE, est-ce que vous y croyez? Encore une fois, l'analyste, l'inévitable, l'inénarrable analyste Ming Xu Kuo a sorti plein d'infos sur ce sujet de rumeurs. Selon lui, l'iPhone SE 2 serait en préparation pour le printemps prochain. Ce serait une base d'iPhone 8 et non plus une base d'iPhone 5, avec bien sûr une remise à niveau de ses composants avec les dernières générations de puces qui équipent aujourd'hui l'iPhone 11 et 11 Pro, la puce A13 Bionic avec 3 Go de RAM et bien sûr un écran cette fois-ci avec bordure de 4,5 pouces LCD, donc pas de Face ID mais Touch ID et un prix autour des 400 €, soit 500 € en France. Est-ce que Didier, Stéphane, vous croyez à cette rumeur?
Ouais, moi, je pense qu'ils ont besoin quand même d'un iPhone pas trop cher. Il y avait quand même une demande. Moi, je connais encore des gens qui achètent le SE pour des problèmes de simplement, ils veulent avoir des petits téléphones qui font pas forcément grand-chose, mais suffisant. Après, la base d'iPhone 8, enfin, avec un écran bord à bord, finalement, on est un peu sur le format de l'iPhone 10, tu vois. Donc, ce serait ressortir une espèce d'iPhone 10. Est-ce que c'est vraiment ça que les gens ont envie aujourd'hui? Je suis assez perplexe. Est-ce qu'on n'assiste pas, tu sais, à ce qui s'était passé il y a quelques temps où voilà, Apple était presque au bout, puis finalement, à la fin, ils ont renoncé à ce type de téléphone? Je pense que ça peut dépendre aussi beaucoup des ventes actuelles de l'iPhone 11. S'ils s'en sortent bien, ils n'ont peut-être pas besoin de ça finalement.
Stéphane, on sait qu'Apple a besoin de rivaliser avec les constructeurs chinois qui sont très agressif en entrée de gamme, en reprenant la recette finalement de l'iPhone SE, ce qui avait converti un iPhone R5 en un iPhone moderne avec les composants de l'iPhone 6 et 6S. Là, on prendrait l'iPhone 8, on mettrait les composants de l'iPhone 11 Pro. C'est une stratégie qui avait fonctionné il y a quelques années et qui permettrait de vendre un téléphone avec des composants récents, avec un design ancien, à un prix relativement agressif, 400-500 €. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher, Stéphane?
Oui, c'est sûr que l'attente du marché, elle est là et tout le monde voudrait avoir des iPhones plutôt que de se rabattre sur un Huawei ou un Xiaomi parce que ça coûte trop cher les iPhones d'entrée de gamme. Et ça, il y a une part de marché dans les pays occidentaux, pour être franc. Moi, il n'y a pas une journée où on ne me parle pas d'un truc comme ça, où des gens souhaitent passer de l'autre côté de la force, parce que d'une part, les constructeurs chinois ont rattrapé leur retard, une grande partie de leur retard, et ils sont surtout beaucoup moins chers, avec des capacités photographiques bien supérieures à ceux de l'iPhone. Donc, bien sûr, ce que vient de dire, je suis d'accord avec ce que vient de dire Didier. Juste, j'essayais de me souvenir la dernière fois où on avait parlé de cet iPhone SE. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était avant les publications de certains chiffres où ils avaient remis sur le marché des iPhone SE dans les magasins pour pouvoir augmenter un peu. Alors, moi, je pense que c'était pour les chiffres financiers du trimestre ou du semestre. Et donc, ils l'augmentaient de façon artificielle. Est-ce que finalement, ce n'est pas un objet plus financier que de besoins réels pour les gens? Parce que quand on sort un téléphone, si Apple sort un téléphone à bas coût, ben, automatiquement, ça va être vendu. Donc, vendu, les chiffres vont être augmentés. Donc, l'action va être meilleure. Moi, c'est le souvenir que j'ai de cet iPhone. Et ce, parce que je ne vois pas Apple être gentil ou faire... comment dire, l'aumône, ou c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, être sympathique avec nous en nous proposant
casser des téléphones ses prix, en tout cas.
Ah ben ça, je le vois mal, mais bon, après, je suis peut-être un méchant en disant ça par rapport aux
fans. En tout cas, il y a la réalité du marché, le vrai enjeu, c'est de savoir s'il y a encore la place pour un téléphone avec un écran LCD, sans bordure, sans Face ID, et avec un appareil photo qui ne serait pas vraiment le top du marché. Mais c'est vrai que le cadre de la communication financière est important chez Apple. Il y aurait d'autres pistes qu'un iPhone SE chez Apple. Pas moins de 4 autres iPhones seraient attendus en 2020. 4 iPhones sans bordure avec écran OLED pour succéder aux iPhone 11 et 11 Pro. D'abord, l'iPhone 12 Pro serait équipé de dalles 6,1 et 6,7 pouce contre 5,8 et 6,5 pouces, donc on se rapprocherait d'un format phablette. Et du côté de l'iPhone 12, qui remplacerait donc l'iPhone 11, on passerait du 5, on aurait déjà un modèle plus petit, 5,4, et on retrouverait le modèle de 6,1 pouces, qui est aujourd'hui le modèle du 12. Et un design qui serait plus, Didier, plus hommage au design assez carré, caractéristique de l'iPhone 4, qui est sorti il y a quelques années, qui a eu énormément de succès. On est à 3 ans sans changement de design, ça c'est assez logique.
Bah oui, et puis bon, on revient, c'est cyclique, hein, effectivement. Là, tu vois, j'ai devant moi le Pro Display XDR, il a la forme un peu de l'iPhone 4 avec ses petits bords comme ça, le Mac Pro aussi. Les iPads 2018 étaient un petit peu comme ça, donc je vois bien effectivement ce format-là. Je crois aussi beaucoup à l'augmentation un peu des écrans, là, tu vois, passer à 6,7 pouces, d'autant qu'il y a déjà pas mal de bords aujourd'hui, donc s'ils enlèvent ce bord-là, ils pourraient le faire sans trop augmenter la taille du téléphone de manière générale, mais il faut rattraper un peu ce retard qu'ils ont sur Android aujourd'hui, hein, qui a des téléphones un petit peu plus gros. Et après, il y a l'histoire du nom aussi. Ils ont bien réussi avec l'iPhone 11. Les gens ont l'impression qu'Apple a baissé le prix parce que l'iPhone XR est devenu l'iPhone 11 comme par magie. Et puis après, augmenter un petit peu en gamme, effectivement. Alors, voilà, est-ce que les gens ont l'impression d'acheter le nouvel iPhone quand ils achètent un iPhone LCD comme ça d'entrée de gamme? Est-ce qu'ils ne vont pas répéter ce schéma avec peut-être un iPhone un petit peu moins cher? Voilà, 5,4 pouces, ça me paraît quand même petit aujourd'hui. Mais écoute, pourquoi pas?
Sachant que Apple semble vouloir vraiment accélérer, c'est le moment, hein. On sait que les Chinois sortent un nombre incalculable de produits, 2, 3, 4 produits par an. Apple ne peut pas se contenter d'une seule mise à jour au mois de septembre. Hein.
Les grands constructeurs comme Samsung et Huawei, maintenant, ils ont deux grandes sorties par an. Ils ont deux grandes sorties par an en début d'année, en fin d'année. En tout cas, ils occupent l'espace parce qu'en fait, quand on s'aperçoit des classements par semestre de vente de téléphone, ben si vous n'en sortez qu'un seul, vous êtes présent bien sur un classement, mais pas sur le deuxième, et vice-versa. Donc, quand on a le classement de début d'année, ben c'est l'iPhone, parce qu'il sort en septembre. Donc, on a tout le dernier trimestre, plus le premier trimestre de l'année qui vient, qui est toujours très fort. Les autres, eh ben, ils sortent en avril, entre février et avril. Donc, pareil, rebelote, donc il y a un décalage. Donc, c'est eux qui sont en position de force pour le semestre suivant, etc., etc., etc. Et donc, maintenant, comme ce sont des entreprises qui jouent aussi beaucoup sur leur puissance financière, parce que la puissance financière est très importante pour leur existence, parce que ça fait partie aussi de leur business model. Donc, il est nécessaire pour moi d'avoir deux dates. Et Apple, pour l'instant, ne maintient qu'une seule en septembre. Et s'ils sortent ce nouveau téléphone qui pourrait être l'entrée de gamme ou en tout cas, eh ben déjà, ils pourraient déjà se mettre au même niveau que les autres parce que je pense que les intérêts financiers, on l'a dit tout à l'heure, sont très importants pour Apple. Maintenant, le truc, c'est que qu'est-ce qu'ils vont rajouter de plus ? Là, je pense, dans le déroulé, tu vas en parler, et voilà, et sans transition, tu vas pouvoir tout de suite nous relancer. Là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous lancer comme énorme chose à part le design ?
Ben, on sait que ce qui est attendu cette année, Stéphane, Didier, c'est bien entendu la 5G qui manquait beaucoup à la gamme actuelle.
Ben, alors, elle ne peut pas manquer parce que nous, on n'avait pas de forfait. Mais en Suisse, tu en as, Didier, donc tu peux en parler plus que nous.
Et pas que en Suisse, en Corée, ils en ont depuis maintenant plus d'un an, je crois. Aux États-Unis, depuis le début de l'année. Bon, voilà, c'est toujours un peu plus ou moins expérimental quand même. Mais c'est vrai que c'est quand même long, hein, ces transitions, il ne faut pas se leurrer, ils ne sont pas si en retard que ça. Mais effectivement, ça fait vendre. Et puis quand tu achètes un iPhone qui va durer 4-5 ans, tu as envie qu'il ait la 5G. D'ailleurs, à l'époque où il y a eu la transition vers la 5G, rappelle-toi, c'était au niveau de l'iPhone 5, 5C.
4G.
Oui, de la 4G. Et on a eu ce problème avec des téléphones qui ont vieilli très vite parce qu'effectivement, ils n'avaient pas la 4G. Ou alors, ils avaient la 4G qui marchait que chez certains opérateurs. Donc ouais, c'est excessivement important pour Apple. Et surtout, ça va déboucher sur de nouveaux usages qu'on ne connaît pas forcément. Et qui peuvent arriver aussi très très vite, des choses, on en parlait tout à l'heure, un peu plus temps réel, donc voilà, qui peuvent éventuellement aussi t'inciter à basculer. Quoi.
Rumeur, après les iPhones, où sont passés les iPads? Ira-t-il des nouveaux iPads en 2020? On y répond dans ce prochain chapitre. Nouveaux iPads et quid de Siri, toujours au registre de vos souhaits en 2020 du côté d'Apple. Celui de Kma JVN, il manque un nouvel iPad Pro OLED. On a vu dans la foulée du lancement de l'iPhone ou des rumeurs de lancement de l'iPhone 11 Pro et 11, pas mal de photos volées d'un iPad avec le fameux bloc optique avec les trois lentilles qui étaient au dos. On s'attendait qu'Apple sorte un iPad à l'occasion d'une keynote au mois d'octobre comme l'année dernière. Rien n'est venu. Là, ils n'ont pas le choix que de le sortir cette année. Mais il y a peut-être un peu moins d'urgence, Didier, car tout simplement, les ventes d'iPad vont bien. Apple a retrouvé de la croissance qui était en décroissance depuis plusieurs années et est large leader du marché aujourd'hui, Didier.
Oui, bah, l'iPad Pro 2018, ça a été quand même un beau succès. Après, c'est vrai que les ventes, elles ont retrouvé un petit peu des couleurs, mais elles ne sont pas dingues. Cette année, ils ont quand même lancé 3 nouveaux modèles. Je pensais que ça ferait vraiment l'explosion, d'autant qu'on avait quand même un nouveau mini, un nouvel iPad Air, tu vois, qu'on n'attendait pas forcément. Là, ils ont encore relancé un nouvel iPad, entre guillemets, d'entrée de gamme en fin d'année. Et ça n'a pas été l'explosion des ventes non plus. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un petit peu du mal avec ces iPads. Et puis, il y a la sortie donc d'iPadOS qui a permis un peu de relancer la machine, de nous faire dire aussi que voilà, l'iPad c'est un système à part entière, qu'il faut des développeurs, il y a Photoshop qui arrive, il y a beaucoup d'espoir, mais on sent que ça traîne un peu, hein, tu vois, même Adobe là, ce qu'ils ont sorti, ça, il y a beaucoup de gens qui attendaient, puis finalement c'était un peu le flop quand même, ce Photoshop. Et voilà, enfin moi je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont pris cet outil, voilà, qui ont mis des claviers, tout ça, puis voilà, on en attend un petit peu plus aujourd'hui. Je pense qu'il manque vraiment la partie logicielle pour vraiment asseoir ce produit. Donc est-ce que rajouter des capteurs photo sur un iPad, tu vois, c'est le premier truc qu'on attend? Moi j'ai pas vraiment l'impression. Moi je pense qu'on attend plus des éditeurs et une vraie intégration dans un monde pro aujourd'hui. J'ai des amis architectes, tu vois, qui ont sauté sur l'iPad Pro et qui finalement sont repassés sur les Surfaces parce que voilà, pour se connecter sur les serveurs, enfin il y a beaucoup plus de transparence avec tout ça aujourd'hui. Donc Apple aurait peut-être besoin aussi peut-être de partenaires un petit peu pour développer sa tablette. Voilà, moi c'est plutôt ce que je vois à moyen terme. Donc bon, c'est trop, ce triple capteur photo sur un iPad, ça me fait vraiment pas rêver, quoi.
Ouais, en clair, Apple aurait besoin de muscler iPadOS et de faire en sorte qu'un iPad soit aussi productif qu'un Mac. On le disait, l'iPad est largement leader du marché, à 27,1% de part de marché. Il y a très peu de chiffres, puisqu'encore une fois, Apple ne communique plus ses chiffres, mais on arrive quand même à en trouver quelques-uns. Lors du premier trimestre 2019, ils avaient encore 27,1% de part de marché. C'est le double de la part de marché qu'a Samsung sur par rapport à Apple. Donc Apple est large leader. On va voir, et logiquement, Apple devrait mettre à jour d'ici la WWDC, l'arrivée d'une prochaine version d'iPadOS. Un nouvel iPad. Autre souhait sur le compte dont refait le Mac, celui de Sébastien. Ça concerne un assistant vocal digne de ce nom. Siri est mauvais en français, même sur la synthèse vocale. Ensuite, je voudrais un HomePod, mais permettant d'avoir accès à l'assistant partout pour toute la famille et faisant de HomeKit une vraie alternative à l'écosystème Alexa. Alors, c'est un vaste débat, mais c'est vrai que Siri... Tim Cook avait fait des déclarations au début de l'année dernière en disant qu'ils allaient mettre le paquet sur Siri. On n'a rien vu arriver en matière d'amélioration et d'intelligence artificielle, Didier.
Non, du tout. C'est vrai que ça évolue pas. Voilà. Bon, c'est en fait ce qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est que HomeKit, par exemple, se développe extrêmement bien. Je trouve qu'il y a énormément d'accessoires. Là, en plus, ils ont créé un consortium avec voilà, tous les grands acteurs du marché pour créer quelque chose d'assez uniforme. Et Apple propose que le HomePod, finalement, et tes accessoires, mais c'est pas aussi simple d'utilisation que d'appeler un assistant comme ça. Et ils n'ont pas développé auditeur le dit très bien. Il nous faudrait un espèce de HomePod mini qui soit juste là pour Siri, pour actionner les commandes et tout. Moi, j'ai le HomePod à la maison, je m'en sers quand même pas mal, tu vois. Je trouve que pour Apple Music, c'est cool, pour allumer l'Apple TV, pour allumer tes lumières et tout, c'est assez pratique. On aimerait bien que ce truc se développe un petit peu. Donc c'est aussi à Apple de donner l'impulsion comme ça avec ses produits. Et puis sur l'aspect logiciel, oui, ils ont beaucoup de retard, mais moi, ce qui me gêne le plus en fait sur Siri aujourd'hui par rapport à Google notamment, c'est le fait qu'il n'a pas tout l'écosystème Google. Il a beaucoup de mal à aller chercher l'info sur internet, tu vois, tout simplement, quoi. Il y a plein de questions que tu aimerais lui poser, mais il te dit c'est pas possible, ou alors il faut que tu prennes ton iPhone et tout. Alors là où Google s'en sort de mieux en mieux, et en plus Google, tu le vois évoluer chaque jour, Siri un petit peu moins, quoi.
Siri, toujours une réaction de Sébastien, si je la retrouve. Ce que je retiens, c'est qu'Apple, Amazon, Google et l'alliance Zigbee vont enfin se mettre d'accord sur un protocole ouvert et interopérable pour la maison connectée. Enfin, alors Google, je suis moins sûr, mais Amazon, c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est quelque chose qui est compliqué. Et ce qui est bizarre, c'est que j'avais lu une statistique, la tendance était réelle, c'est-à-dire que malgré les ventes d'iPhone qui sont moins importantes que celles d'Android, bah 70%, c'était ça le chiffre que j'avais en tête, de trafic de data venait de possesseurs d'iPhone. Donc quand on a plus de data en potentiel que Google, on devrait être en capacité d'avoir le meilleur système, parce que plus on a de données, plus le système est efficace. Là, et il se trouve, j'ai l'impression,
ouais, c'est sûr.
Le confirmera, mais en gros, j'ai l'impression que le Siri de l'iPhone est différent de celui de l'iPad, est différent de celui de l'Apple TV, est différent de celui de l'HomePod. On a l'impression que c'est des systèmes qui sont silotés. Et j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas au sérieux, que ce n'est pas important, quoi. Et c'est vraiment dommage. Parce que tous les jeunes ne font leur texto et, leur, et ne travaillent qu'avec ça. Tous les jeunes. Donc la génération future, les acheteurs, là pour l'instant, ils prennent nos anciens iPhones, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard ? Ben, ils vont acheter, ben, il faut qu'ils soient efficaces. Hein. Et ils le feront. Le nombre de textos que je reçois de mon fils, envoyé par Siri. Que ça,
il
ne
fait pas. Il y a vraiment urgence pour qu'Apple accélère du côté de Siri. Et tu te parlais de l'HomePod, qui explique le fait que ça ne marche pas super bien, qu'il n'y ait pas forcément autant de réactivité et d'éventail de fonctionnalités que sur un Google Home, par exemple, que les ventes du HomePod ne soient pas si spectaculaires. Quelques mots quand même sur ce que vous attendez de cette année, de votre côté, vous, monsieur les chroniqueurs, en 2020. On a beaucoup parlé. Déjà, de fonctions cachées dans l'iPhone. On parlait de la recharge inversée qui n'est jamais arrivée. Est-ce que vous pensez qu'elle va arriver ? De ce fameux Apple Tag, ça ne devrait pas tarder, Didier.
Ah bah oui, non mais l'Apple Tag, moi je trouve que c'est une suite logique de pas mal de choses. Déjà de plus perdre ses affaires, tu vois, tu pourras en mettre un petit peu partout dans ton sac, dans tes valises. Tu vas dans le train, voilà, tu pourrais taguer tes valises. Et surtout qu'ils ont la techno pour même les situer dans l'espace, donc ça pourrait être un moyen comme ça de se repérer. Ça pourrait même compléter le système qu'on a aujourd'hui dans les musées avec le Bluetooth, là je me rappelle plus du nom, mais qui permet de positionner les objets, et te donner des infos quand tu passes, par exemple avec ton iPhone autour. Donc voilà, je vois bien ça, mais c'est vrai qu'on avait l'impression que ça arriverait très très vite, ce truc-là, et je sais pas ce qui a dû bloquer, parce que c'est vraiment dans iOS depuis l'été, je crois, et quand ils commencent à le mettre dans iOS, c'est que ça arrive en général assez vite, donc peut-être qu'on aura des trucs comme ça en début d'année, mais il faudra un produit qui soit pas cher et qui soit facile à... Enfin, que tu vois, que tu puisses se spreader un petit peu partout autour de toi, en fait.
Et de glisser des nouveautés tout au long de l'année, ça permettrait de doper un petit peu et de rafraîchir l'offre iPhone, quelque part, c'est plutôt bien joué au niveau commercial. Stéphane, pour revenir sur une annonce forte de cette année, on en avait longuement parlé ensemble. On n'a pas beaucoup parlé dans cette émission, c'est l'arrivée d'Apple Card, la carte bancaire d'Apple avec du cashback, le fait qu'Apple vous reverse des points et de l'argent, c'est très américain comme système. Est-ce que tu crois que cette carte pourrait arriver en France en 2020 ?
Avec le système américain, avec le système de credit score, etc., c'est même pas possible, c'est pas imaginable, parce que c'est souhaité par tous les établissements bancaires et financiers français, mais pour diverses raisons, il est inapplicable et impossible à installer, en tout cas dans les 10 prochaines années en France. Donc, avoir la même chose en France, c'est pas possible. Maintenant, que Apple se mette à faire des cartes bancaires ou aller sur les transactions bancaires, pourquoi pas ? Ils ont les capacités déjà de le faire depuis bien longtemps. Maintenant, franchement, en tout cas, le dispositif il doit être complètement repensé en France et dans d'autres pays, parce que nous, on n'est pas du tout sur le même système américain. Il faudra qu'il s'adosse à un établissement bancaire, donc qui aurait les habilitations, parce que, ou alors s'ils veulent racheter une banque, pourquoi pas, mais bon, là, ça serait une autre histoire. Bien qu'ils en aient la capacité, je pense, de pouvoir acheter toutes les banques françaises sans aucun problème. Mais en toute franchise, je ne vois pas ça comme une priorité ou quelque chose qui est très important. Parce que à quoi ça sert de créer un système de paiement ? À quoi ça sert ? C'est de consommer plus ? C'est d'avoir encore plus de données sur les gens, sur leurs habitudes ? Si Apple devait faire quelque chose, je le souhaiterais personnellement, c'est que peut-être Tim Cook, qui veut faire des choses un petit peu... social, etc., et qui veulent jouer un petit peu les troubles faits. S'ils rachetaient une boîte comme Revolut, qui est une banque anglaise exceptionnelle, hein, une néobanque exceptionnelle, et qui vraiment se met au service des gens avec une qualité de design digne d'Apple pour toutes les cartes bancaires, parce que les cartes bancaires qui ont été faites ont été les premières du même genre, ont été faites par Revolut en métal, comme ça. J'en ai une. Hein. Et ben, s'ils faisaient ça, ce serait vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus efficace d'ailleurs.
Intéressant et à suivre. La dernière rumeur, elle est toute chaude, qui conclut, va conclure cette liste de pistes pour 2020 et des annonces possibles d'Apple. Cette rumeur toute chaude concerne un projet de lancer une constellation de satellites. C'est un scoop qui est signé Bloomberg. Une douzaine d'ingénieurs d'Apple seraient spécialisés dans l'aérospatiale, travailleraient sur un projet de bouquet satellitaire de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de satellites. Ça rappelle un peu le projet qu'a lancé également Facebook ou encore Amazon de créer un réseau de satellitaires de basse altitude qui permettrait de carrément de se passer d'un opérateur mobile, d'un opérateur téléphonique. Les grands de la tech s'y positionnent. Facebook, je l'ai dit. Amazon avec Jeff Bezos et sa filiale en matière spatiale Blue Origin commence à lancer des satellites. Croyez-vous à cette rumeur, hein, plus ils auraient débauché Michael Trella et John Ferwick, qui sont vraiment des spécialistes du domaine, pour travailler, qui travaillent avec Google auparavant, pour travailler sur ce projet-là. Tim Cook, il porterait vraiment un regard très attentif. Ce serait une vraie révolution de pouvoir disrupter les opérateurs mobiles, messieurs.
Ah oui, ça, je peux en parler un petit peu si tu veux, mais comment te dire ? Avec le projet internet.org que Zuckerberg a lancé pour pouvoir mettre de l'internet partout, surtout dans les territoires où il n'y avait pas accès à la fibre, etc., à travers cette initiative, c'était une façon quand même pour appuyer sur quelque chose qui était très important pour Mark Zuckerberg. C'était l'objectif de transformer Facebook en opérateur télécom universel. Car néanmoins, avec Facebook Messenger, avec WhatsApp, on était en capacité de pouvoir appeler en vidéo ou en audio et de faire tout ce qu'on a à faire avec un opérateur télécom, donc, et s'en affranchir. C'est-à-dire qu'on n'était plus obligé d'avoir une carte SIM. Si Apple fait ça, ce serait génial, même si je n'y crois pas trop d'un point de vue financier, parce que je ne sais pas, faudrait dire, mais la proportion, et peut-être Didier, tu l'as l'info, mais qui vend ou qui permet de vendre des iPhones ? Ce sont les opérateurs jusqu'à présent. Ça ne va pas être les Apple Store. Donc, s'ils jouent un peu les rentre-dedans avec les opérateurs, je pense que quand même, il y aura des difficultés pour Apple de pouvoir écouler le nombre d'iPhone chaque année, parce que les opérateurs sont quand même des gros vendeurs pour eux.
Stéphane, pour rebondir sur ce que tu disais, hein, quelques infos autour de la constellation de satellites que prépare Amazon. Près de 3236 satellites vont être mis en orbite basse pour permettre une connexion haut débit partout dans le monde. Alors, est-ce que tu crois à ce scénario, Didier, au-delà, est-ce que tu penses que les opérateurs peuvent se laisser faire ? Est-ce qu'Apple, quelque part, avec ses magasins et son Apple Store, peut très bien vendre en direct, hein ?
Oui, mais en fait, ça pose quand même plein de questions, parce que ne serait-ce que les contraintes, hein, physiques des connexions satellites, bon, là, si c'est en basse altitude, t'as quand même moins de latence, mais il y en a quand même un peu plus que les antennes, a priori, qui sont sur le sol. Et puis, t'as aussi aujourd'hui, tous ceux qui utilisent le satellite, effectivement, le savent bien, c'est pas aussi fluide qu'une connexion classique. On a aussi de la consommation, et, tu vois, je pense que ce serait des téléphones qui seraient hybrides un petit peu, est-ce qu'ils iraient sur le satellite tout le temps ? Quel serait vraiment le réel avantage ? Est-ce qu'Apple aurait des forfaits un petit peu moins chers ? Aujourd'hui, on sait que le roaming là saute de plus en plus. On le voit en Europe. Voilà, les opérateurs proposent de plus en plus des forfaits qui marchent un peu partout. Quel serait le positionnement, en fait ? C'est vraiment ça la question. Quelle est l'idée derrière ? Est-ce que c'est vraiment que pour de la téléphonie ou est-ce que c'est pour aller un petit peu plus loin ? La 5G se développe au-delà de la téléphonie, par exemple, tu vois. Donc, se couper de la 5G, ça paraît être un petit peu bizarre. Enfin bon, voilà, moi, je trouve que ça pose plus de questions que ça en répond.
Et au-delà, on a l'impression qu'Apple simplement se toit de suivre les grandes tendances de la tech. Hein. Ils investissent beaucoup dans la voiture autonome, on ne sait pas si ça va être métallisé par quelque chose. Il y a quelque chose autour des wearables, la santé, ils y vont à fond avec l'Apple Watch. Il faut aussi suivre également ce dossier de réseau satellitaire en orbite basse, parce que s'il ne le faisait pas, je pense que Tim Cook, on lui reprocherait de ne pas avoir investi sur ce côté-là, quitte à abandonner le projet par la suite. Mais il doit suivre ce projet-là si un jour il faut s'y engager plus amplement et que, je dirais, ils ont les moyens d'opérer ce virage. Allez, pour conclure cette émission, un coup de gueule, celui de Walt Mossberg concernant Apple. C'est un des fans inconditionnels de la marque et ça a surpris beaucoup de monde. Le coup de gueule de Matt Mossberg, rappelons qui est ce journaliste, et c'est un journaliste iconique de la presse américaine, hein, c'est un ancien du Wall Street Journal qui était très proche de Steve Jobs, tellement proche qu'il avait beaucoup de mal à critiquer les produits d'Apple, et puis il signe de manière régulière, malgré sa retraite, des chroniques pour The Verge, et dans sa dernière chronique, il va très fort envers, il porte un constat sur la dernière décade d'Apple et les années Tim Cook. Pour lui, c'est des années qui sont réussies en termes financiers, hein, il n'y a pas de problème. Un énorme succès financier, Apple a grossi et chaque département d'Apple, l'Apple Watch, l'iPhone, le Mac, constituerait à lui seul une entreprise à part entière du Nasdaq, donc c'est considérable. Mais quid des produits ? Quid de la culture d'Apple ? Là, il est beaucoup plus critique. Et selon lui, depuis le lancement de l'iPad, et ça, c'était encore un produit de l'ère Steve Jobs, il n'y a pas de révolution. La seule évolution qu'il met au crédit de Tim Cook, c'est l'Apple Watch. Mais il regrette qu'il a fallu 3 générations pour atteindre la maturité. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Tu es surpris par ce coup de gueule ? Il va très fort envers le Mac et il dit carrément que Tim Cook a laissé tomber le Mac, Didier.
Je l'ai relu, sa chronique, et c'est vrai qu'elle est quand même assez dure. Et c'est plus, je dirais, c'est moins une critique d'Apple qu'une... C'est une vraie critique de Tim Cook. C'est vraiment une espèce de constat de la décennie Tim Cook, qui est l'homme qui a fait le boulot, mais sans plus, quoi. Qui effectivement, alors sur le Mac, il est très très dur. Hein. Il dit qu'il a détruit le Mac et il revient effectivement sur les MacBook Pro, les claviers papillons, etc. Je dirais c'est assez drôle parce que The Verge même était, enfin moi je trouvais ces dernières années était très sympa. On avait des 9 sur 10, tu vois, sur l'iMac qui bougeait pas de design, qui avait des disques durs et tout. C'est quand même un média qui était dans les petits papiers d'Apple. Et là, ça arrive comme ça en fin d'année, tu vois, on finit la décennie avec ça, on se dit tiens, finalement est-ce que la presse US aussi qui n'était pas un petit peu endormie, qui s'était laissée endormir par Apple, par justement son gros succès, on n'osait pas trop dire du mal des produits, puis ça marche quand même, puis les gens l'achètent quand même, du coup on n'ose pas trop remettre en question non plus la gouvernance de Tim Cook, c'est quand même une grande société américaine, la plus grosse aujourd'hui, et voilà un article comme ça d'un grand monsieur quand même, hein, qui a suivi la tech pendant 20-30 ans, et qui dit un peu tout, je pense que pas mal de gens pensent tout bas, et je pense que il faut le prendre aussi comme un article qui aime bien châtie bien. Il cherche aussi à avoir une espèce d'issue dans cet Apple qui se cherche un peu aujourd'hui, qui a du mal à créer des révolutions et qui aurait peut-être besoin un petit peu de fraîcheur. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que finalement Tim Cook, voilà, il a fait le job de PDG intérimaire. Est-ce qu'il ne devrait pas maintenant laisser un petit peu la main à des gens qui soient capables de prendre plus de risques, puisqu'Apple en a la capacité. Moi, c'est ce que je comprends en substance en lisant ce papier, quoi.
Stéphane, en conclusion, tu es d'accord avec l'analyse de Didier et de Walt Mossberg, c'est que Tim Cook est un excellent PDG, un excellent gestionnaire, mais qu'au registre du Mac, il y a beaucoup à dire et que c'est vrai que la plateforme a beaucoup souffert, les MacBook Air qui n'ont pas été mis à jour pendant des années, le Mac Pro qui n'a pas été mis à jour pendant des années, les problèmes de clavier papillon, la politique tarifaire, les composants qui sont soudés, la difficulté à les faire évoluer. Une grosse dérive, on dirait que depuis la mort de Steve Jobs, on a même parlé de la Touch Bar hein, qui reste cantonnée au MacBook Pro, ça manque de vision tout ça quand même. Et là, c'est vrai que Tim Cook n'a pas vraiment de vision produit, on est peut-être d'accord avec Walt Mossberg.
En fait, c'est ce que nous disons depuis plusieurs mois, et dans Refait le Mac, on n'est pas enthousiaste, on est content, voilà, j'ai pu l'être la semaine dernière pour... de façon appuyée pour le dernier iPhone, mais on est tous plus ou moins d'accord et je suis ravi que quelqu'un d'aussi expérimenté et quand même un peu influent partage les mêmes orientations que nous. Je ne dis pas qu'on l'a influencé, hein, je l'aimerais bien, hein, mais au moins on est tous plus ou moins d'accord. Maintenant, le truc, c'est... Il y a encore des années, c'était 100% du chiffre d'affaires était dédié, ou en tout cas provenait de l'informatique, de des ordinateurs. Et aussi, à l'époque, vous vous rappelez, même des imprimantes, etc. Quand ça a été rationalisé, Apple, au retour de Steve Jobs, pendant des années, jusqu'en 2007, ça vendait que des ordi, ou presque. Et bien, en 10 ans, ils ont quand même complètement transformé le business de la boîte, et maintenant, 70%, c'est de l'iPhone et de l'iPad. Donc, l'ordinateur, c'est minoritaire. Donc, qu'il y ait moins de choses ou moins de révolutions sur quelque chose qui est devenu minoritaire dans un chiffre d'affaires, on va dire que c'est normal. Même si, au fond de nous, on pense que c'est anormal, mais c'est comme ça. C'est une logique. Maintenant, moi, je reviens à peu près à ce que vous disiez tout à l'heure et je repensais au move qui avait été fait par Bill Gates quand il a décidé de laisser tomber la place de CEO au profit de Steve Ballmer pour être le conseiller. Tout le monde dit, mais comment, le mec, il est fondateur de sa propre boîte, il ne veut plus être le président. On l'a pris pour un malade. Mais en fait, c'était très intelligent. Ils ne s'occupaient plus des trucs opérationnels, des notes de frais, des ragnagnas de chacun, etc. Ils ne s'occupaient plus de ça. Ils s'occupaient plus de la créativité et de relancer la boîte. Il a essayé. Ouais. Et après, si Ballmer aussi a passé la main, et Satya Nadella a récupéré. Et depuis, maintenant, Microsoft n'a jamais eu son action aussi haute de son histoire. C'est comme ouais. ça. Même chose chez Google, c'est comme ça. Donc, il y a besoin de 109. D'ailleurs, postuler, hein, je pense que peut-être les French Boys, je pense qu'ils ont toujours bien inspiré les CEO d'Apple. Je pense que les Français devraient essayer de postuler à Cupertino, on ne sait jamais.
Bah, s'il y avait quelques Français, ça nous permettrait d'avoir une communication directe avec Apple, leur faire comprendre que...
Bah, je vais postuler, alors promis, je vais postuler.
C'est
alors.
Notamment qu'on nous file des machines. Je repense au Mac Pro, le fait qu'on n'ait pas de Mac Pro.
Non, mais oublie ça, c'est pas ça.
Fourni à la presse, c'est un message terrible qui est envoyé à la communauté d'utilisateurs que de dire, bah, écoutez, non, on veut que ce soit des pros qui les testent. Pourquoi les journalistes, ce n'est pas des pros venez voir notre studio qu'on a monté, vous verrez que le nombre de vidéos qu'on tourne en HD ou en 4K, on est tout à fait capable depuis de longues années de pouvoir les tester. Et puis, c'est vrai que moi, je suis très frustré, c'est vrai, de la politique autour du Mac depuis la disparition de Steve Jobs. Espérons qu'un nouveau cycle commence en 2020 avec le départ de Johnny Ive, même si j'aurais, moi, à titre personnel préféré, qu'il reste plus longtemps aux commandes et qu'il prenne carrément lui-même la succession d'un Tim Cook dans sa bio, souvenez-vous. Steve Jobs le désignait comme un possible successeur. C'est la fin de ce 359e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et sur la petite cloche pour être prévenu en temps réel d'une nouvelle émission. Bonne année les amis, encore une fois. Belle Apache Salute. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Didier, Stéphane.
Et oui, avec plaisir, Olivier.
On sait que c'est une nouvelle dizaine, donc ben, on aura obligatoirement des belles nouveautés pour commencer cette nouvelle décade.
On sera fixé très rapidement s'il y a une keynote en mois de mars. On sera bien sûr au rendez-vous sur Refait le Mac. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Encore bonne année. Au revoir.